Avis de turbulence sur Matignon. Sébastien Lecornu a-t-il encore une chance de rester Premier ministre ? Bonsoir, soyez les bienvenus dans BFM Grand Soir. Quasiment tous les signaux sont au rouge. La preuve avec cette réunion tombée à l'eau. LR devait tenir une réunion cruciale en fin de journée pour décider ou non de sa participation. Ça ne s'est finalement pas fait. Elle est reportée à demain. Pour en parler, on est avec Pierre-Henri Dumont. Bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général adjoint LR, vous allez pouvoir nous expliquer ce bazar. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi c'est reporté? On est aussi avec Léa Ballage, El Mariki, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de Paris, porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. On sait que la gauche n'est absolument pas convaincue des dernières discussions avec Sébastien Lecornu. Ce sera très intéressant de vous entendre sur cette question. Franck Boisise, bonsoir.
Bonsoir, Émilie.
Merci d'être avec nous. Journaliste économie à Libération, il en sera question de l'économie et des premières pistes de Sébastien Lecornu. Et enfin, Victor Hérault, bonsoir.
Bonsoir, Émilie.
Merci d'être là, journaliste politique Valeurs Actuelles. Alors, notre journaliste, Lola Baye, ne me regardez pas comme ça, hein, Pierre-Henri Dumont, c'est de votre faute si on en est là ce soir. Notre journaliste, Lola Baye, attendait de pied ferme l'issue de cette réunion. Elle était devant le QG des Républicains depuis plusieurs heures, quand soudain, on a appris que la réunion n'aurait pas lieu. Lola, vous êtes sur place, est-ce qu'on sait pourquoi ?
Parce que Bruno Retailleau, chef de file LR, aussi ministre de l'Intérieur démissionnaire, et le Premier ministre Sébastien Lecornu n'arrivent pas tout simplement à trouver un accord, hein, deux points de crispation. Bruno Retailleau demande des baisses drastiques dans les dépenses publiques et aussi de reprendre la main sur l'immigration, notamment sur la question des visas avec l'Algérie. Du côté de Beauvau, on nous dit que c'est normal que les négociations se poursuivent, qu'il y a des allers-retours par téléphone entre le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, mais on sent du côté des députés LR une certaine exaspération, une certaine impatience. Bruno Retailleau, en tout cas, menace de claquer la porte. Est-ce là une véritable rupture ou un jeu de dupes, hein? Beaucoup de membres du socle commun, eux, pensent que c'est avant tout un coup de bluff, hein, destiné à rassurer son électorat. À noter, en tout cas, la réunion LR qui devait avoir lieu aujourd'hui est reportée à demain, faute d'accord.
Merci beaucoup, Lola Baye, depuis la place Beauvau. On va vous montrer d'abord le message qui a été envoyé par Bruno Retailleau aux membres LR. Vous avez dû le recevoir, Pierre-Henri Dumont. Voici ce qu'il écrit. « À ce stade, la participation de la droite au gouvernement n'est pas acquise du tout. Le compte n'y est pas. Et c'est pour ça qu'on a décidé notamment de reporter notre réunion à demain dans la journée. » Vous n'êtes pas langue de bois. Racontez-nous tout ce qui s'est passé, Pierre-Henri Dumont. Pourquoi est-ce qu'on en est là ce soir?
Ce que je peux vous dire, c'est que Bruno Retailleau ne bluffe pas. Bruno Retailleau,
c'est à tout de suite, vous allez sur le bluff.
Parce que c'est ce qui a été dit par votre correspondante. Donc je tiens à démentir ce qui a pu être dit, ce qui peut être transmis au sein des partenaires du socle commun. Bruno Retailleau s'est fait connaître et a une droiture politique, il a des convictions, certains le critiquent, certains critiquent ses mêmes convictions, mais personne ne peut lui reprocher de changer ses convictions au fil du temps. Et donc, Bruno Retailleau, suivant ses convictions, estime que s'il n'a pas les moyens de mener ses actions et l'action qu'il désire mettre en place et dérouler son programme politique dans la partie qu'il concerne, en particulier au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire réduire l'immigration dans notre pays, donner plus de moyens aux forces de police, eh bien, il n'y a pas de raison d'être en contradiction avec ses convictions et donc plus de raison de participer à ce gouvernement.
Léa Ballage, El Mariki, je vous ai vu sourire quand il a parlé de bluff.
J'appellerais ça peut-être même un caprice en réalité. Je crois que personne n'est dupe et les Républicains ne vont pas... ne plus avoir les dorures des ministères parce qu'en réalité, ce pacte scellé entre les Républicains et les Macronistes, il existe depuis, singulièrement depuis 2022, où les Républicains sont la meilleure béquille. Maintenant, c'est aussi le Rassemblement National, la meilleure béquille de ce qui reste du macronisme dans ce pays. Ça leur permet d'avoir encore des ministères, des présidences de commissions à l'Assemblée nationale, des postes de vice-président, on l'a vu cette semaine encore. Donc c'est un caprice et en réalité, ce n'est pas à la hauteur de ce que nous devons donner à voir dans notre pays, parce qu'il y a des exigences, celle de répondre à l'amélioration du quotidien des Françaises et des Français. Et là, le compte n'est pas du tout.
Donc, Pierre-Henri Dumont.
Pourquoi est-ce que les Républicains...
Je vous laisse répondre, c'est un caprice, vous êtes en train de vous servir allègrement, en gros.
Non, mais écoutez, vous savez, nous, on n'a pas été dans les gouvernements depuis la fin de 2012, quand Nicolas Sarkozy avait quitté l'Élysée. Et quand Michel Barnier a été nommé, c'est normal qu'étant membre des Républicains, nous allions au gouvernement. Mais maintenant, il faut mettre un contrat de gouvernement sur la table. Et la réalité, c'est que sous François Bayrou, quand il a été nommé, il n'y a pas eu ce contrat de gouvernement. Et c'est ce qui a fait qu'on a vu une division au sein même du socle commun lors du vote de non-confiance, qui a été celui de François Bayrou, qui l'avait demandé et qu'il a évidemment perdu. Et c'est bien parce qu'il y a des négociations qui ont lieu en amont, en avant. Vous êtes membre, madame, du parti Europe Écologie, je ne sais plus si on dit Europe Écologie Les Verts, enfin, le parti
des écologistes. Allez-y.
Les écologistes, en Allemagne, font partie de plusieurs coalitions, parfois avec la droite, parfois, le plus souvent, je vous l'accorde, avec la gauche, mais il y a des accords de gouvernement qui sont réalisés dans les pays voisins. Bon, il n'y a pas de honte à discuter avec un tel ou un tel et dire qu'on n'est pas d'accord et de trouver des points d'accord, justement, pour réussir à mettre en place, dérouler un gouvernement. Et je vous le rappelle, pourquoi est-ce qu'on est rentré au gouvernement en 2024? On est rentré au gouvernement en 2024 justement pour éviter que la gauche mélenchoniste autour de Madame Casté, c'est la réalité, Madame Casté qui, ouvrez la parenthèse, est quand même celle qui a validé toutes les notes de frais de Madame Hidalgo et de l'ensemble des élus parisiens à la mairie de Paris pour acheter les robes Dior, etc.
Il en sera question retrouver. Tout à l'heure.
Mais c'est bien pour
vous
ça que je vous ai fait un teasing.
Nous,
je vous ai fait un teasing. C'est bien pour éviter que Madame Casté, qui était votre candidate, se retrouve première ministre de la France telle que vous le souhaitiez.
Alors attention, donc, il y a des élus LR qui
mais parce qu'en réalité, vous préférez vous couper les deux bras, les deux jambes, plutôt que la gauche arrive au pouvoir, alors que nous avons été élus en tête des élections législatives et que vous avez perdu un certain nombre.
C'est un abus de langage.
Non, nous sommes arrivés en tête, le Nouveau Front Populaire.
Non, mais populaire, nous, c'est qui nous?
Mais c'est l'ensemble du Nouveau Front Populaire.
Il n'existe plus aujourd'hui, on est d'accord.
Avec tout ça, monsieur Glucksmann, vous
n'existez plus, le Nouveau Front Populaire.
L'ensemble des députés de gauche et écologistes constitue un bloc plus important que les macronistes et les quelques LR qui sont un peu plus de 40 à l'Assemblée nationale.
C'est pas vrai.
Donc,
c'est mathématique.
Mais vous mentez, madame. Soit vous ne savez pas compter, soit vous mentez.
Non, et donc nous sommes arrivés en tête.
Vous ne savez pas compter, vous mentez.
Nous sommes arrivés en tête et vous préférez vous couper les deux bras et les deux jambes, plutôt que de laisser la gauche essayer de gouverner.
On va donner la parole à Franck Boisise aussi.
Non mais pardon, je voudrais juste revenir sur ça. Non. Parce qu'il y a quand même une énormité qui vient d'être dite. Le bloc le plus important, il y a le NFP qui est là, mais qui est le deuxième bloc en termes de taille, quand on additionne les députés Les Républicains avec les députés macronistes. Donc je suis désolé de vous... Vous pouvez pas dire que vous êtes aujourd'hui le bloc
le plus important. Mais le bloc arrivé en tête, celui... Vous aviez parlé du nombre de députés en juillet 2024. C'est bien le Nouveau Front Populaire. Et dans une république démocratique parlementaire, comme en Allemagne,
une fois que ces bagarres d'apothicaires sont terminées, je crois que le sujet central était les demandes des Républicains ce soir.
Je veux bien les dire.
Vous disiez qu'il ne s'agissait pas de bluff. Moi, je pense que la métaphore du poker est assez intéressante parce que finalement, quand on regarde les dernières demandes de M. Retailleau, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le coup de poker dans la mesure où réclamer la politique des visas, qui n'a jamais été de la compétence de Beauvau, mais qui est de la compétence du Quai d'Orsay. Réclamer qu'on revienne sur l'aide médicale d'État, qui est un sujet particulièrement, comment dirais-je, clinquant et révélateur pour cette formation politique. C'est bien que dans la dernière ligne droite, juste avant que le gouvernement ne soit formé, eh bien, Bruno Retailleau essaye de faire monter les enchères et il fait comme un joueur de poker. Il essaye d'avoir les derniers jetons.
Mais comme tous les partis, le Parti socialiste fait la même chose sur ses mesures budgétaires avec la taxe Zucman. Je veux dire, c'est normal que chaque parti essaie de tirer la couverture.
Quand même que Bruno Retailleau est lui en fonction.
Ah oui, alors ça c'est tout à fait vrai. Mais d'ailleurs, il conditionne sa participation et c'est démontré d'ailleurs l'importance de Bruno Retailleau. Ça a été le cas lors du gouvernement de Michel Barnier et de la transmission vers le renouvellement vers le gouvernement de François Bayrou. François Bayrou voulait que Bruno Retailleau reste parce qu'il était l'homme fort de son gouvernement. De la même manière que Sébastien Lecornu, à mon avis, veut que Bruno Retailleau fasse partie de son gouvernement
également. Mais est-ce que c'est être avoir une attitude de parti de gouvernement que de vouloir dans les dernières 48 heures gratter deux trucs qui de toute façon
ce n'est pas vrai.
Est-ce que vous cherchez à gratter deux trucs, Pierre-Henri Dumont?
Pardon, mais dès la nomination de Sébastien Lecornu, le jour même de sa nomination, et même quelques minutes avant qu'il soit officiellement nommé, parce que nous étions en bureau politique, nous avions créé et donné un communiqué de presse qui expliquait les lignes et les grandes lignes qui étaient celles de notre participation au gouvernement. Donc on n'a pris absolument personne en traître. On a expliqué qu'il fallait quoi? Un, revaloriser le travail, faire en sorte que ceux qui travaillent gagnent toujours plus que ceux qui ne travaillent pas, avec une mesure qui est une mesure très claire, très simple. Ok, pour faire l'allocation sociale unique, c'est pas forcément ce que nous on voulait depuis le départ, mais pas grave, c'était dans le programme qui était présenté, mais on la plafonne à 70% du SMIC pour faire en sorte que ceux qui travaillent gagnent toujours plus que ceux qui ne travaillent pas. de faire en sorte de réduire l'immigration dans notre pays, contrôler les flux migratoires. Et dans le contrôle des flux migratoires, oui, il y a bien évidemment la question des visas. Pour une raison qui
Mais il n'a jamais été écrit noir sur blanc, vous voulez les visas de la compétence du ministre de l'Intérieur.
Alors c'était déjà, avant que ce soit retransféré à aux affaires étrangères, c'était de la compétence du ministère de l'Intérieur. Donc c'est quand même
vous
assez récent.
Vous le remontez à De Gaulle
ça,
ou quoi?
Ça quand même est, non, bien après. C'est quand même assez récent que c'était rebasculé. Et pour une raison qui est très simple, c'est une question de présentation de la politique migratoire. Vous pouvez pas avoir un ministre de l'Intérieur et un gouvernement qui dit qu'il faut être beaucoup plus ferme, par exemple avec l'Algérie, où on a des compatriotes français qui sont aujourd'hui enfermés, comme Oualem Sansal, qui sont enfermés par le régime algérien. Et que, dans le même temps, on a d'autres personnes qui sont compétentes pour les visas, par exemple le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l'Éducation supérieure, de l'Enseignement supérieur, qui octroient des visas sans que ça passe par le contrôle ou des titres de séjour étudiants, sans que ça passe par le contrôle du ministère de l'Intérieur, et où le consulat ou l'ambassade d'Algérie publie des tweets en disant « Regardez, c'est du bluff, puisque le nombre de visas, le nombre de titres de séjour octroyés à des Algériens ont augmenté de 1000. »
Mais parce qu'il ne revenait pas à M. Retailleau sur la politique étrangère française.
Mais sauf
il
que, pardon,
est allé contre, non, contre
pardon, madame, c'est
le,
pas de la
son
politique.
Champ de compétences. Mais
nous,
on considère bien entendu,
que c'est
des, bien
parce que nous,
on considère
que c'est pas la politique étrangère.
Et d'ailleurs, il a été un peu vilipendié.
Pas en même temps, allez-y, madame.
Non, sur ce sujet, plus spécifiquement, des relations entre la France et l'Algérie. Je crois que M. Retailleau a été un peu rattrapé par le col parce qu'il est allé beaucoup plus loin que la position du président de la République et du ministère des Affaires étrangères. Et fort heureusement, ce ministère n'est pas responsable de notre politique étrangère. Donc il faut arrêter de penser que M. Retailleau, parce qu'il est ministre de l'Intérieur, peut s'occuper de l'ensemble de la position de la France à l'égard de l'ensemble des pays
du monde. Je comprends parfaitement votre position, et je la comprends d'autant plus que vos amis avec qui vous voulez gouverner de la France insoumise ont refusé de voter une résolution qui demandait la libération de notre compatriote Boualem Sansal, retenu aujourd'hui en Algérie par le régime algérien.
Et les écologistes l'ont voté.
Oui, mais c'est pas un petit peu réducteur de vouloir résumer la politique étrangère de la France et les relations internationales au cas particulier, tout aussi scandaleux soit bizarre, exemples. De Boualem Sansal.
C'est un des exemples, et c'est un exemple tellement symbolique et tellement symptomatique. Nous avons des compatriotes aujourd'hui,
de visa, c'est pour
journalistes,
de la planète,
qui sont aujourd'hui retenus dans les geôles du régime algérien, qui sont en danger de mort.
Alors,
c'est ça aujourd'hui le sujet.
Pierre-Henri
et donc
Dumont,
ça fonctionne malheureusement avec l'Algérie. Et il y a d'autres pays sur la question des laissez-passer consulaires et du refus de délivrer des laissez-passer consulaires. Moi, je ne comprends pas, et les Français ne comprennent pas non plus, pardon de vous le dire, qu'on accepte d'avoir des ressortissants étrangers qui viennent en France, quel que soit le motif, pour la santé, pour les études, pour le travail ou de façon irrégulière, et qui ne sont pas renvoyés dans leur pays, que ces pays-là continue de voir
quand vous étiez en train de faire la liste justement vous étiez en train de faire votre liste à Sébastien Lecornu. Vous en étiez à la deuxième, donc sur la baisse drastique.
Pardon.
Oui, non mais justement, il y en a encore beaucoup ou pas des points parce
non,
que,
mais
parce que
un peu et le dernier.
Non mais pour comprendre ce qui coince en fait avec le Premier ministre.
Vraiment, les trois points majeurs à retenir.
Vous avez dit revaloriser le travail, d'accord.
Revaloriser le travail, deux, diminution de l'immigration et plus de moyens au ministère de l'Intérieur. En réalité, c'est la question des visas qu'on a
évoquée. Et le troisième point, là où ça coince avec Sébastien Lecornu.
Et le troisième point, c'est pas de hausse d'impôts, mais des baisses de dépenses dans notre pays. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on a un pays qui est shooté à la dépense publique, complètement junkie, et qu'il faut bien arriver dans une phase de sevrage. Et que cette phase de sevrage ne peut pas passer par d'abord une augmentation d'impôts, soit d'abord évidemment passer par une diminution des dépenses.
Vous voulez diminuer quoi comme dépenses? Les dépenses de santé? Les dépenses liées à l'éducation?
Je vais vous donner un exemple.
Les dépenses liées à l'investissement dans les collectivités territoriales? La transition écologique?
Je peux vous
ça,
en
ça, c'est minime par rapport à.
L'éducation,
Vous faites l'expatité des dépenses minimes pour dire.
Prenez le
temps. J'en profite pour saluer Aurore Malval qui nous a rejoint. Oui, parce que les téléspectateurs se demandent à quel moment vous êtes arrivé, éditorialiste politique.
Dans deux minutes, vous allez nous faire les agences. Regardez, c'est dans les éléments de langage, en général, ça arrive en deuxième position.
Les fonctionnaires, les agences.
Laissez-le nous le dire. Allez-y,
Pierre-Henri Dumont, si vous voulez.
Mais je peux donner les chiffres, il n'y a pas de souci. Le nombre de fonctionnaires, vous évoquez. Si la France avait le même nombre de fonctionnaires que l'Allemagne, qui n'est quand même pas un pays aujourd'hui qui est sous-administré, où il y a un déficit de services publics, on aurait 1,8 million d'agents publics en moins en France à nombre égal d'habitants.
Comparaison n'est pas raison, c'est un État fédéral.
Ça représente, c'est tout compris, parce que je comprends moi dans les fonctionnaires la fonction publique territoriale comme la fonction publique d'État. Et pour l'Allemagne, c'est exactement pareil. Donc que le pays soit fédéral ou le pays soit centralisé comme la France, ça revient strictement au même dans ma comparaison. Et donc ça ferait 72 milliards d'euros d'économie. On cherche 40 milliards, pas de souci. On prend juste la moyenne des pays de l'Union européenne. Si la France avait le même nombre moyen de fonctionnaires par habitant que les pays de l'Union européenne, on aurait 933 000 agents, c'est 37,3 d'agents en moins, pardon. Donc ça ferait 37,3 milliards d'euros d'économie. Et vous allez me dire, ah oui, mais ça va faire moins de services publics. Eh ben non, pas forcément, parce que faire du service public, ça ne veut pas forcément dire, comme vous le faites pour moi, je le fais pour vous. Avoir moins de services publics, ça ne veut pas forcément dire avoir que des agents publics qui font du service public. Moi, je pense que le privé peut très bien faire du service public. Et on a aussi des normes qui ont explosé. Moi, dans ma mairie.
Attendez, je voudrais juste avoir le sentiment d'Aurore Malval.
Ça coûte plus cher au public.
Aurore Malval, vous débarquez au milieu de tout ça. Vous êtes ce marasme. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'on a parlé de bluff il y a un instant. Vous pensez que LR bluffe en ce moment ou qu'au contraire, ils essayent d'obtenir quelques points encore sur cette dernière ligne droite?
Ça fait un peu la cité de la peur. Moi, je dis que
moi, j'aurais dû bluffer.
Tu bluffes par
famille. C'est ça. En fait, il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire que oui, il y a une surenchère. Et évidemment, on sait bien que Bruno Retailleau, quand même, ne veut pas quitter ce gouvernement. Après, il se rend compte aussi d'une chose, Bruno Retailleau, c'est qu'aujourd'hui, dans les sondages, il stagne. Que finalement, être dans un gouvernement qui fait aveu d'impuissance assez régulièrement, eh bien, c'est pas forcément aussi très porteur. Il faut, si on est au gouvernement, avoir un petit peu les moyens de sa politique. Là, c'est ce que les LR essayent de faire. D'ailleurs, il y a surtout un qui n'est pas très très favorable à l'entrée au gouvernement, c'est Laurent Wauquiez, et on n'est pas très surpris. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que le MoDem aussi a envoyé aujourd'hui une demande de clarification.
Ne divulguez pas la suite de l'émission. On va en parler du MoDem.
Mais en fait, c'est symptomatique de la période dans laquelle on est, où à nouveau, voilà, tout le monde essaie de faire monter les enchères, et donc évidemment qu'il y a un jeu de bluff
de gratter,
effectivement, d'emporter le maximum. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que un des axes les prioritaires de Bruno Retailleau, c'est de prendre, en fait, de confisquer cette politique des visas qui seraient seulement gérés par le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas une mesure fiscale, ce n'est pas dans le débat budgétaire qui nous occupe et qui va nous occuper. Est-ce que c'est justement le moyen d'avoir un levier pour pouvoir définitivement, en tout cas, gagner ce bras de fer face au ministère des Affaires étrangères qui l'a quand même beaucoup empêché depuis le début de son passage dans les différents gouvernements.
J'ai un autre argument pour apporter de l'eau à votre moulin. C'est que les Républicains, qu'ils participent ou non au gouvernement, se retrouvent dans une situation difficile parce qu'ils vont être, quoi qu'il arrive, comptables du budget. Puisqu'ils ont le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale et le rapporteur général du budget au Sénat. Autrement dit, c'est le porte-voix, c'est celui qui annonce, qui entérine le budget. Donc les Républicains sont, comment dire, le parti qui a le plus de pression sur les épaules puisque c'est celui qui...
Vous êtes en train de les plaindre.
Bah, oui, en réalité, c'est une position difficile à tenir parce que c'est... Non, mais c'est le parti qui officiellement mettra le son sur le budget.
7% aux élections, un tiers des ministres.
Qu'ils soient au gouvernement ou pas, ce que je veux dire, c'est que le budget sera signé LR quelque part à un moment ou à un autre. Donc les Républicains ont raison dans la dernière ligne droite de dire ils essayent de gratter, comme on dit depuis tout à l'heure, parce que c'est eux à la fin qui signeront en bas de la page.
Il y a quand même une dernière dimension qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent autour de cette table, c'est que...
Alors je vous rassure, on a du temps.
C'est gentil, Émilie. C'est concernant Bruno Retailleau lui-même. Avoir le ministère de l'Intérieur est un poste d'observation et de contrôle remarquable. Il se situe dans la ligne de Nicolas Sarkozy qui a occupé cette fonction-là et qui sait qu'avant les élections municipales de 2026, avant les présidentielles 2027, pouvoir être à ce poste stratégique est un réel atout politique.
C'est vrai.
Et je ne parle même pas des liens avec tous les services de renseignement que l'on peut avoir quand on occupe également cette fonction. Donc, il n'est peut-être pas prêt à lâcher tous ces avantages-là. Et il continue à négocier, et je pense qu'il le fera, jusqu'à la dernière seconde avant la constitution du gouvernement.
Alors, si on fait les comptes, LR n'est pas convaincu, mais Olivier Faure ne l'est pas non plus. Je vous montre ce qu'il a déclaré, le premier secrétaire du PS, c'était cet après-midi, nous dirigeons tout droit vers la censure, surtout si la donne ne change pas. Pour quelle raison? Est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément?
Alors, je ne suis pas porte-parole du Parti Socialiste.
Oui, mais vous parliez du NFP il y a un instant, justement.
Je peux vous parler de la position des écologistes et je crois qu'elle recoupe aussi celle des socialistes. Le compte n'y est pas en termes de justice sociale. On nous a dit, alors que la loi, la taxe Zucman a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe écologiste et social, que celle-ci ne pourrait pas figurer dans le budget. La question, encore une fois, de l'augmentation des salaires n'est toujours pas posée. On nous parle de baisse d'impôts sur les sociétés. Et En réalité, cette politique de l'offre, elle n'a fait qu'empirer l'état des comptes publics en France depuis 2017. Donc le compte n'y est pas. Et puis, je crois que si Monsieur Retailleau restait au gouvernement, il motiverait une censure pour les écologistes à lui seul, parce que ses propos, qu'ils soient racistes, xénophobes ou islamophobes à longueur de temps, eh bien, constituent déjà une raison de censurer ce gouvernement.
Aurore Malval. Quel est le signal envoyé finalement quand ce soir on voit que LR ne semble pas convaincu, qu'Olivier Faure tape du poing sur la table et menace même de censurer Sébastien Lecornu? Ça veut dire que finalement il est en train de se mettre tout le monde à dos, ou au contraire il y a justement peut-être certains partis qui bluffent un peu, ou qui tentent en tout cas d'obtenir des points supplémentaires? Enfin, en fait, on se demande si finalement, est-ce que tout le monde a des raisons d'être en colère ce soir?
Tout le monde a des raisons d'être en colère, et tout le monde se dit peut-être qu'il y a quelques raisons d'espérer, ou en tout cas qu'il faut pousser effectivement chaque parti a une position assez singulière qui du coup est différente. Les raisons du PS d'être en colère ne sont pas les mêmes que celles des LR, même si le résultat in fine sera peut-être le même, ce qui ne sont pas d'ailleurs tout à fait les mêmes que celles des écologistes que vous avez énumérées.
C'est-à-dire que il a pas si mal fait ses calculs finalement, Sébastien Lecornu, si il a essayé de contenter un peu tout le monde.
Alors, Sébastien Lecornu, il est resté très vague. Il n'a pas dit grand-chose. Il a répété à chacun un petit peu peut-être ce qu'il voulait entendre, et encore, c'était assez insuffisant. Lorsque les socialistes sont sortis de leur rendez-vous, ils n'étaient pas contents. La lettre qui a été envoyée par les LR n'a pas eu de réponse. Elle n'a pas donné. Ils n'ont pas été satisfaits non plus. Donc effectivement, pour le Parti socialiste, leur situation, je dirais, un petit peu plus compliquée que pour leurs alliés ou ex-alliés du NFP, c'est que le Parti socialiste avait dit, en tout cas, que l'absence, le fait de gouverner sans 49-3, c'était sur leur liste de courses, si je puis dire. Mmh. Et effectivement, Sébastien Lecornu, en disant « on ne se servira pas du 49-3 », donne finalement la seule chose qu'il peut donner tout de suite au Parti socialiste, parce que le reste, on va très vite se rendre compte que sur la taxe sur les plus riches, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est souhaité par le PS, que sur la réforme des retraites, eh bien on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire rien, et donc que toute la liste en fait de mesures sociales, de justice fiscale, etc., énumérées par le PS dans leur contre-budget, eh bien il n'y en aura pas. Donc c'est vrai que ce principe de dire on gouvernera sans 49-3, le PS se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne veulent pas non plus être isolés de leurs partenaires écologistes et même dans une certaine mesure de la France insoumise. Donc, pardon.
Oui, non, mais ça me faisait penser justement, parce que bon, c'est pas très enthousiasmant tout ce que vous nous dites. En tout cas pour Sébastien Lecornu, vous, Victor Hérault, vous le disiez même déjà la semaine dernière, c'est terminé pour lui.
Oui, je le pense.
Là, vous le pensez toujours.
Oui, c'est une question de jour. Non, parce que vous le dites, le LR n'est pas satisfait, le PS ne l'est pas. La France insoumise, on n'en parle même pas, les écologistes, bon. Donc, personne n'est satisfait, et surtout le Rassemblement national, qu'on ne cite jamais alors que c'est le premier parti de l'Assemblée nationale. Personne n'est satisfait, mais vous le disiez, Émilie, la stratégie, c'est pas... moi, je trouve que c'est une erreur de vouloir contenter tout le monde, puisque c'est impossible. Justement, vous parliez de politique de l'offre versus politique de la demande. Baisse des dépenses versus hausse des recettes. Ce sont des visions économiques et budgétaires qui sont complètement opposées.
Que va-t-il devoir faire? Il va devoir souiller le Premier ministre?
Il reste des atouts, parce qu'on a, beaucoup, jasé sur l'absence de 49-3, le refus d'utiliser le 49-3. Mais il reste des articles qui sont des atouts dans la manche de Sébastien Lecornu. Ça, on oublie de le dire. Alors, je cite par exemple l'article 44-3. Sébastien Lecornu peut dire, à ce moment-là, si les discussions s'enlisent au Parlement, on arrête complètement les discussions et on ne vote pas, non pas article par article, amendement par amendement, mais je prends un bloc, ou alors je prends tout le texte, je vous l'impose et on vote, et c'est un coup de poker là pour le coup. C'est soit vous le votez.
Donc vous lui conseillez d'arnaquer ceux à qui il a promis.
C'est un outil constitutionnel, mais c'est une possibilité.
On ne peut pas dire que la Constitution, c'est une arnaque.
Il y en a un deuxième.
Non, mais vous conseillez quand même de faire des détours.
Ça, c'est une voie de passage. Il y en a un deuxième, par exemple, l'article 47. Ça, on en parle souvent. Il y a un délai de 70 jours. Il y a un chrono qui va être lancé. Le Parlement, Sénat et Assemblée, a 70 jours pour se mettre d'accord. Si ça n'est pas fait dans les 70 jours, le gouvernement peut faire passer son budget par ordonnance. À ce moment-là, il n'y a pas de vote. Ça, c'est une autre voie de passage. Il n'est pas obligé d'utiliser le 49-3.
Il a dit qu'il ne le ferait pas.
Voilà.
Cependant, il a dit qu'il ne le ferait pas. Mais après, la vérité du 3 octobre sera peut-être pas celle
Exactement.
Oui, mais vous êtes un petit peu pessimiste, parce que vous oubliez un truc. C'est que pour le Bloc central, comme pour le Parti socialiste, si Sébastien Lecornu n'arrive pas à faire voter un budget, et donc si de nouveau il doit faire ses valises très rapidement de Matignon, ça veut dire que les partis dits partis de gouvernement vont devoir assumer, alors qu'on est à 6 mois des élections municipales, une instabilité gouvernementale, un budget qui n'est pas voté avec les conséquences que cela peut avoir, qui sera fâcheux pour chacune des formations qui se dit partie de gouvernement.
Ça dépend du narratif, parce que vous pouvez aussi dire ce sont les oppositions qui nous ont empêchés de prendre un budget.
Je ne suis pas sûr que les électeurs soient dupes. Hein.
Non, mais je crois que l'instabilité gouvernementale, depuis la dernière dissolution, déjà c'est le président de la République qui emporte la responsabilité avec ce choix, et ensuite d'avoir par deux fois nommé des premiers ministres qui ne tiennent pas parce que non seulement ils ne répondent pas à une grande question qui est celle que les macronistes ont perdu les élections, sur ça on peut se mettre d'accord, les macronistes sont celles et ceux qui ont perdu le plus lors de ces élections législatives, et que par ailleurs il y a une demande de justice fiscale, de justice sociale, de protection de notre environnement dans le pays, et que ces gouvernements n'y ont pas répondu. Donc cette instabilité là elle ne provient pas de celles et ceux qui censurent, elle provient de celles et ceux qui sont aux manettes et qui n'entendent pas les demandes qui sont faites et qui ont été faites. Non mais personne n'est majoritaire. Mais encore une fois, pardon, mais je sais que vous préférez, c'était vraiment le slogan Hitler plutôt que le Front Populaire à l'époque, c'est vraiment la gauche. C'est un point de l'histoire. C'est pas une comparaison, c'est une analogie. Et je dis simplement qu'à un moment particulier de notre histoire, où le Rassemblement National n'a jamais été aussi important à l'Assemblée Nationale et aussi important dans les urnes, eh bien, il y a un choix délibéré des macronistes de leur donner des gages politiques et des victoires politiques. Je ne parle pas des postes et de vice-présidents et de leur voiture de fonction qui vont avec. Je parle des victoires politiques sur les lois immigration.
C'est d'ailleurs pour ça que vous avez présenté deux candidats chez les écologistes pour les postes de vice-président qui ont été battus.
Pour avoir les chauffeurs et les voitures.
Parce que nous voulions que les macronistes puissent assumer, et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est parce que nous l'avons, parce que nous avons déposé deux candidatures qu'il y a eu un vote, parce que nous voulions que les macronistes puissent assumer d'avoir voté le Rassemblement National plutôt qu'un parti républicain comme les écologistes.
Quelles sont les options qui s'offrent à Sébastien Lecornu? C'est vous qui nous en parliez, Aurore Malval. C'est le MoDem aussi qui demande une clarification. Alors, si même le Bloc central commence à s'y mettre, là...
Qui se fie.
C'est ça.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est je pense que aussi ces demandes de clarification de toutes parts et ces listes de courses qui sont poussées viennent aussi du fait que Sébastien Lecornu a décidé aussi de renoncer au 49-3. Parce que finalement, moi je pense d'ailleurs qu'il a renoncé au 49-3, c'est pas un coup de génie politique
proposé par le PS d'ailleurs.
Un acte de bienveillance incroyable.
Oui, c'est ça, mais en fait ça lui permet de durer, c'est ça. Le 49-3 était une arme qui était pour l'instant braquée contre lui. Et le fait d'en disposer rendait la censure quasi inévitable. Donc il s'est débarrassé de ce pistolet qui était braqué sur sa tempe et qui allait être tiré immédiatement pour reculer cette échéance. Et effectivement, quand on voit que le budget pourrait... Alors, on peut se retrouver avec un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs à l'automne dernier. Souvenez-vous, dans un hémicycle quasi désert, on avait un certain nombre d'ailleurs de mesures d'ailleurs sociales qui avaient été adoptées par la gauche, d'autres sur d'autres textes de loi. Au contraire, quelques députés LR avec une grande partie des députés RN votaient aussi un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc ça, c'est aussi l'occasion pour chacun. Alors, pardon, vous n'êtes pas là.
Non, je suis pas d'accord.
Oui, et raison, il va falloir qu'on résume rapidement parce qu'il faut qu'on avance sur un sujet épineux, un autre.
Qui sont attendus et qu'effectivement la question de la justice fiscale et d'une taxation différente des plus hauts patrimoines et des plus hauts revenus est un véritable point.
Mais j'ai jamais dit que ça l'était pas.
Non, mais c'est-à-dire qu'on pourra peut-être pas avoir le scénario qu'on a eu sur le vote du budget 2025, justement parce qu'il y a ces.
Ça va donner une responsabilité
au Parlement. Je vais faire très court. Ça donne juste une responsabilité aux parlementaires Avant, il y avait la voiture balai du 49-3. Ils pouvaient voter n'importe quoi, faire plaisir à leurs électeurs, voiture balai, pouf, le 49-3, nettoyer tout. Maintenant, ils sont déjà obligés d'être présents pour beaucoup, en particulier dans le bloc central, en séance de nuit, etc. Ça va être assez...
Ça va changer.
Vous aviez dit que c'était rapide.
Oui, c'est rapide. Et surtout, ce sera le budget du Parlement. Et qu'à un moment donné, à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de 49-3, il y a une présentation qui est la base, et puis après, ce sera modifié par le Parlement. Et puis, c'est compliqué pour des partis qui auront voté des amendements, qui iront dans leur sens, de rejeter un budget qu'au final, sera plus proche du leur que celui de la
majorité. Vous n'avez plus la parole. Évoquons à présent un sujet épineux, la fraude sociale et fiscale. C'est l'un des premiers chantiers auxquels a décidé de s'atteler Sébastien Lecornu. C'est ce que l'on apprend dans les colonnes de la Tribune dimanche. Pour en parler, on a appelé le spécialiste des spécialistes, Charles Prats.
Bonsoir,
merci d'être avec nous. Ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Ça va être très intéressant de vous entendre sur ce sujet. Un projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres début octobre, puis examiné au Parlement d'ici la fin de l'année. Alors, quand on se penche sur les chiffres, c'est vrai que c'est assez déroutant. Près de 20 milliards d'euros de fraude fiscale et sociale ont été perdus pour les caisses de l'État. 13 milliards, rien que pour le volet social. Et Matignon affiche un objectif très précis, récupérer 2,3 milliards d'euros supplémentaires dès 2026 entre recouvrement et fraude évitée. Qu'en pensez-vous ?
Alors, déjà, les 20 milliards, on va pas repartir. Je vois notre ami de Libération qui est là. On va pas repartir sur des débats sur les chiffres. C'est un peu plus que 20 milliards quand même sur la fraude fiscale et sociale chaque année.
60, hein.
Je vais pas polémiquer sur les chiffres avec vous ce soir. En revanche, l'objectif de 2,5 milliards, en gros, hein, de récupération d'argent en plus sur une année, c'est assez ambitieux. Parce que si vous n'augmentez pas les moyens des services de contrôle et puis les méthodologies de contrôle, ça va être quand même un petit peu compliqué.
Ça vaut pas le coup justement de...
Non, mais évidemment. Alors le projet de loi qui va arriver, il y a pas de novation. Hein. C'est le projet de loi qui avait été préparé déjà du temps de François Bayrou.
En juillet.
Voilà, c'est un projet de loi qu'on pourrait appeler de diverses dispositions. Donc c'est un peu quelque chose de fourre-tout dans lequel vous avez 20-25 mesures différentes qui sont mises, qui sont proposées. Des mesures qui sont assez intéressantes, je les ai vues, hein, donc effectivement il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, des choses très techniques, des choses qui m'amusent puisque c'était des choses qu'on avait proposées il y a une douzaine d'années et puis qui sur notamment la fraude fiscale en bande organisée qui reviennent.
Donc concrètement ça passerait par quoi? Parce que vous dites qu'il y a des choses techniques, il y a des choses simples.
Non, globalement ça va être de l'amélioration des droits de communication entre les services, ça va être le fait de pouvoir par exemple en matière de fraude fiscale en bande organisée basculer dans ce qu'on appelle le PERBEN 2, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser les techniques spéciales d'enquête en matière de fraude fiscale en bande organisée. Vous voyez, c'est ce genre de choses. On est sur un projet de loi qui va arriver au Parlement, qui est vraiment très technique, mais dans lequel vous n'avez pas de grandes mesures structurantes susceptibles de faire rentrer énormément d'argent dans les caisses.
Que ce n'est pas un réel levier pour
non, en gros, le problème, c'est toujours la même chose. Et je vais me répéter, c'est quelque chose qu'on connaît, hein. C'est documenté, on a un rapport de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale des Affaires Sociales d'avril 2023 qui avait été remis à Gabriel Attal. J'en avais parlé à l'époque à Gabriel Attal, j'en avais reparlé à Michel Barnier quand il était Premier ministre. Si vous voulez par exemple faire une opération immédiate, ce qu'on appelle presse-bouton, c'est très simple, on sait qu'on a à peu près 500 000 de personnes qui sont toujours aujourd'hui dans le système social, qui ont toujours des droits ouverts à la sécurité sociale, mais qui n'ont plus de titre de séjour. Donc ça, c'est très simple. C'est un croisement de fichiers entre le fichier des titres de séjour du ministère de l'Intérieur et le fichier de la sécurité sociale. Vous faites une opération presse-bouton et vous sortez 500 000 de personnes du système. Ça, c'est très simple à faire. Bon. Le problème, c'est que quand vous expliquez ça à l'administration, ils poussent des cris d'orfraie et ils sont tétanisés.
Voilà. Pourquoi?
C'est une bonne question. Faut leur poser. J'ai eu cette discussion.
On va demander à Franck Boisy, il a peut-être la réponse.
Non, j'ai pas.
Je suis pas sûr
qu'il y ait des cris qui soient poussés, mais finalement, cette mesure presse-bouton que vous évoquez, quel serait, son rapport et le gain pour les finances de l'État, comparé à ce qui est, me semble-t-il, la partie la plus importante de l'iceberg, qui est la fraude fiscale organisée, notamment l'optimisation fiscale qui
devient la fraude l'optimisation.
Que quand il y a 12 banques françaises qui se sont fait prendre les mains dans la confiture, comme c'est le cas récemment, et qu'on a 4 milliards d'euros de redressement qui sont prononcés, et c'est la question que je viens de vous poser, est-ce que vous ne pensez pas qu'avant toute chose, au lieu de faire des nouveaux textes de loi, ce qu'il faudrait, ce serait de véritables moyens pour les services d'enquête fiscaux, pour qu'ils puissent faire plus, comme ils disent en jargon, d'affaires, d'opérations, de contrôle.
Je vais vous dire une chose. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut arrêter de se prendre la tête, à dire on va évaluer combien ça coûte, machin, etc. Faut arrêter. C'est, on s'engage en voie, il faut aller chercher les fraudeurs. C'est, moi, j'ai passé ma vie à faire ça. Bon. Je crois que sur ce
donc,
plateau,
il y a pas besoin de nouvelles lois pour aller chercher les fraudeurs. Il y a quand même plus de moyens, sans doute.
Mais c'est même pas plus de moyens. Sur ce plateau, je crois que je suis le seul à avoir attrapé un certain nombre de fraudeurs. Je sais comment ça se passe et je vous dis, il faut aller les chercher. Et ce que je vous disais, par exemple,
mais vous disiez que ça passait par plus de moyens aussi pour aller chercher.
Par exemple, si vous prenez le travail au noir, le travail dissimulé, etc., les agents des URSSAF, il y en a un nombre déterminé. Ils font déjà énormément de boulot. D'ailleurs, ils ont des résultats qui sont en constante progression depuis une quinzaine d'années. Sauf que les journées, donc 24 heures. Hein. Vous prenez les CAF, les agents de contrôle des CAF, il y en a 700. Les CAF estiment qu'ils ont un taux de fraude d'un peu plus de 5% sur 13,5 millions d'allocataires. On va dire, ça veut dire que vous avez combien? 5%. Ça signifie, non, mais si, je vous donne 650 000 fraudeurs ou 700 000 fraudeurs pour 700 bonhommes. Comment voulez-vous que 700 contrôleurs, humainement, puissent attraper 700 000 personnes? Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, à un moment donné, il y a des questions de ciblage, de moyens. Pas forcément de nouvelles lois, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas besoin de changer le juridique. Par contre, il faut donner les instructions pour y aller, et il faut changer la mentalité, il faut changer de paradigme, et vraiment vouloir aller chercher les fraudeurs.
Oui, Léa Balage, Elmariquet, vous vouliez réagir?
Dans ma circonscription, un centre des impôts qui est menacé de fermeture. Et très clairement, ce que me disent les agents de la DGFiP, c'est qu'il manque de moyens pour aller faire des contrôles sur pièce, sur place. Là, on leur demande plutôt maintenant de faire des contrôles numériques et de vérifier à travers des documents qui sont transmis, alors qu'ils ont besoin d'avoir cette capacité d'enquête dont vous parliez. Donc, on a un problème de moyens humains qui est mis à disposition de ces fraudes. On a aussi une fraude. Alors, sur la question de la sécurité sociale, c'est intéressant que vous puissiez en parler, c'est 80% qui concernent en réalité les professionnels de santé, sur la double facturation, sur des actes qui n'ont pas été réalisés également, du dépassement d'honoraires qui n'était pas justifié. On a 80% de cette fraude à la sécurité sociale qui provient de ces professionnels, et donc on a besoin de renforcer auprès de la Caisse d'assurance maladie cette capacité d'enquête et de sanctions qui est actuelle. Et puis enfin, il y a un dernier sujet dont on parle assez peu, c'est cette zone grise entre l'optimisation et l'évasion fiscale. Oui. Moi, je préside une association.
C'est important
parce que Charles de Courson, qui est vraiment pas de ma famille politique et qui était rapporteur général du budget, le parlait. On a une administration fiscale, Bercy, au plus haut sommet de Bercy, avec la direction de la législation fiscale, qui est allée à l'encontre des dispositions législatives qui avaient été adoptées dans les budgets précédents. C'est des milliards d'euros qui ont été perdus, d'un côté sur la question des niches fiscales pour les logements type Airbnb, de l'autre côté avec le mécanisme des CumCum, qui là aussi a été épinglé, et c'est de l'argent public qui a été perdu. Parce que on a laissé les lobbies bancaires d'un côté, les lobbies de ces grands groupes comme Airbnb pénétrer Bercy et pouvoir avoir une incidence sur les instructions qui sont données, qui sont contraires à la loi, et c'est extrêmement grave. Et donc je crois que Bercy devrait s'occuper de ça avant de s'occuper de projets de loi qui, par ailleurs, ils sont gouvernement démissionnaire, ils peuvent même pas en déposer.
Mais je suis heureux de voir que vous découvrez l'eau tiède et que vous découvrez que
l'administration... Je ne découvre rien du tout.
Découvrez que l'administration fiscale, dans ce qu'on appelle l'édiction de la doctrine fiscale, souvent édicte une doctrine fiscale qui est contra legem.
C'est un problème.
Évidemment, c'est un problème. Et je pense que tous les avocats fiscalistes de France vous expliqueront que c'est un problème. Effectivement, la doctrine administrative...
C'est pour ça que j'ai fait un recours pour essayer de pouvoir contre cette...
Ah ouais, mais la doctrine administrative que l'on peut d'ailleurs opposer à l'administration...
Je ne l'ai pas découvert, je l'ai même attaqué.
Voilà, elle a tendance à être contre les guerres. Et l'administration fiscale a un peu tendance, dans sa manière d'interpréter la loi, à faire ce qu'elle veut. Contrairement à ce que vote d'ailleurs le Parlement. Mais ça,
c'est un sujet démocratique majeur.
C'est un vrai sujet, on est bien d'accord. Et ça va dans les deux sens.
Pour pas peut-être que ça tourne pas au débat de spécialistes, je ne suis pas sûr que tout le monde derrière son écran puisse comprendre.
S'il vous plaît, parlez comme si Framboisie avait 5 ans.
Il y a quand même une question d'objectif, c'est-à-dire que vous voulez aller sur la fraude sociale, ok, c'est louable, mais est-ce qu'il vaut mieux affecter le moyen de l'État à chercher des milliers de petites fraudes éparpillées, ou est-ce qu'il vaut mieux affecter le moyen de l'État à chercher
de la
fraude organisée pour des grandes entreprises?
On peut faire les
deux. À Libération, on raconte l'histoire de Lactalis qui s'est fait prendre les mains, j'allais dire non pas dans la confiture mais dans le lait, et qui a écopé d'un redressement fiscal de 450 millions d'euros sur une seule entreprise.
Oui.
Donc, est-ce que les moyens de l'État ne doivent pas être majoritairement dirigés vers les plus gros fraudeurs fiscaux. Comment peut-on concevoir aujourd'hui, par exemple, que Dubaï soit une sorte de zone de non-droit fiscal dans laquelle bon nombre de ceux qui ne veulent pas déclarer leurs revenus vont aller ouvrir une holding?
De moins en moins, parce que les Émirats sont en train de nettoyer ce qui se passe à Dubaï et à Abu Dhabi. Mais pour revenir
les Dubaï Papers ne sont pas une invention, monsieur.
Oui, mais les choses évoluent beaucoup. Il faut regarder ce qui se passe avec l'actualité. Pour revenir à ce que vous dites, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, vous parliez des professionnels de santé. Vous savez, en matière de fraude sociale comme en matière de fraude fiscale, on ne trouve les fraudes que celles que l'on cherche. On ne trouve que les fraudes qu'on cherche. Si on ne cherche pas les fraudeurs, on ne va pas les trouver. Et c'est vrai qu'en matière sociale, il y a une tendance à ne pas forcément aller chercher ce qu'il faut chercher. Vous voyez, vous parliez des professionnels de santé. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc et d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour monter une opération anti-fraude. Vous prenez la droite de la courbe de Gauss. Vous savez, vous avez des gaussiennes, donc l'activité, les professionnels de santé, et vous prenez ceux qui sont sur la droite de la courbe de Gauss, c'est-à-dire ceux qui sont sur activité, qui vont travailler 72 heures par jour, qui voient 300 patients, etc. On sait que c'est pas possible. Donc ça, sur le système d'information de la CNAM, on l'a. Mais il suffit d'aller chercher ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les chercher systématiquement? Ça fait 15 ans que la Cour des comptes leur dit d'y aller. Bon. Ça, c'est pas très compliqué à faire. Sur les assurés fraudeurs, oui. Moi, ce que je vous explique depuis des années, c'est qu'on a quand même un sujet, c'est qu'on a plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge en France pour 68 millions d'habitants. Bon, à un moment donné, il va peut-être falloir commencer à prendre le taureau par les cornes. Il n'y a pas que moi qui le dis. Vous prenez encore une fois ce rapport de l'IGF et de l'IGAS de 2023, ils vous disent qu'il y a au moins 4 millions de personnes en trop. Donc là-dessus... Mais effectivement,
est-ce que ça permettrait réellement, pardon, de remplir les caisses de l'État?
Ça permet d'éviter qu'elles se
trop dépensées.
Oui, en fait, c'est ça.
C'est un peu c'est le différentiel.
Est-ce que vous parliez tout à l'heure d'argent public perdu? C'est pas le cas. C'est de l'argent public perdu pour la fraude sociale. Mais la fraude fiscale, c'est pas de l'argent public perdu. C'est de l'argent privé qu'on n'est pas allé chercher. C'est pas du tout pareil philosophiquement parlant.
C'est de la recette fiscale qui ne rentre pas.
Oui, mais dans l'autre sens, c'est de l'argent qu'on donne à des gens qui ne le méritent pas du tout. C'est tout aussi grave.
Il y a aussi un sujet qui n'a pas été évoqué. Vous évoquiez, monsieur, la question de est-ce qu'on ne serait pas de côté les petits poissons, entre guillemets, ceux qui fraudent la cave de temps en temps, et qu'on n'irait pas mettre tous les moyens sur les gros poissons. J'entends le raisonnement, il est parfaitement
c'est
cohérent.
C'est ce qu'on a fait sur la
parfaitement
drogue, par
cohérent,
exemple.
Mais il y a aussi une question qui n'a pas été abordée, c'est la question de l'acceptation sociale. Et que le citoyen lambda, la fraude sociale de la grande entreprise, il ne la voit pas. Donc ça, c'est aux services fiscaux d'aller la chercher. Mais par contre... une personne qui est dans son HLM, dans son logement social, et qui voit qu'à côté, lui, il se lève tous les matins, qui ne peut pas avoir accès, par exemple, à une nouvelle maison parce qu'il touche pas assez, et qu'une personne qui, elle, ne travaille pas, ne vit pas forcément de la même façon qu'elle a déclaré à la caisse d'allocation familiale, pas par exemple dans une maman isolée avec deux enfants, mais vit plutôt en couple, la personne à côté ressent de façon beaucoup plus prégnante et en termes d'acceptation sociale, ça risque aussi de dérégler le ciment qui fait le ciment
de
la société.
C'est plus de l'ordre
mais
du
le
symbole.
Consentement à l'impôt, c'est le fait que les ultra-riches payent beaucoup moins en proportion par rapport aux classes moyennes. C'est ça, ce consentement à l'impôt qui est
acquis. On parle de deux choses différentes.
L'acceptation sociale passe par, justement, une justice. Or, le contribuable que vous décrivez dans son logement HLM, il est tout autant choqué, parce qu'il regarde BFM où il lit les journaux, de voir que le taux de pression fiscale sur les 1800 foyers fiscaux les plus riches de ce pays est proportionnellement beaucoup moins important.
Sauf que le Français qui nous regarde, c'est que le tonneau des Danaïdes n'a pas besoin d'être rempli davantage, même si effectivement la fraude fiscale, je la dénonce tout à fait, il faut aller chercher cet argent.
Mais
le tonneau des Danaïdes n'a pas besoin d'être rempli, il a besoin d'arrêter de se vider. Donc le problème, c'est l'argent qui sort.
Mais Aurore Malval, parce que par même temps, c'est
la nécessité.
Vous admettrez
que tous les rapports de la Cour des comptes, même l'Union européenne, nous dit que nous avons un problème.
Le pays le plus imposé au monde a besoin de
s'il vous plaît,
la
personne. Mais par en même temps, on ne s'entend pas.
Celui qui est le plus juste,
Aurore Malval. Aurore Malval, allez-y, extrêmement.
On a 2 millions de travailleurs pauvres dans notre pays.
Aurore Malval va prendre la parole. Allez-y, Aurore.
Si vous baissez la fiscalité, peut-être qu'il serait plus riche.
Mais ça devient inaudible.
Non, mais ça n'a jamais fonctionné.
Il y a deux tiers qui est pris par les impôts.
C'est marrant parce que de vouloir absolument opposer le fait qu'il y aurait un tonneau comme ça, des Danaïdes qui sortiraient et qui arroseraient de prestations sociales tout le monde, alors que le fait que justement des personnes qui devraient verser à l'État ne le font pas, leur dû ne le font pas, parce que par exemple la contribution justement sur les hauts revenus qui avait été mis en place par Michel Barnier puis François Bayrou et aussi avec la contribution différentielle justement sur les hauts revenus, elle n'a pas du tout le montant escompté.
C'est normal.
C'est vrai.
C'est la courbe
de
la
charte. Ce que je dis, c'est que l'image du tonneau des Danaïdes, c'est ça sert à rien de vouloir remplir davantage tant qu'on n'a pas bouché les trous.
Mais justement, c'est un trou qui trou qui n'est pas bouché. Là, le fait que des gens puissent s'extraire, puissent faire justement de l'optimisation fiscale pour empêcher de s'acquitter de cet impôt qui oui, est justement
c'est
l'impôt.
C'est philosophique notre débat parce qu'on le voit pas de la même façon. C'est pas d'argent.
Mais c'est l'argent qui
revient. Oui, c'est exactement ça.
Vous les privez la nation de recettes. C'est un manque à gagner. Mais ce que je dis, c'est le problème dans ce pays, c'est qu'il y a un tel. On peut pas dire qu'il y a un problème de recettes. Il y a des gens qui ne participent pas à hauteur de ce qu'ils devraient participer. Et c'est de la fraude fiscale. Donc c'est un problème, je suis d'accord. Mais le problème majeur en France n'est pas les recettes, c'est les dépenses. Une fois qu'on a bouché les trous, on peut dire, et même pendant, parce que c'est un faux dilemme qu'on aborde depuis tout à l'heure. On dit c'est soit l'un, soit l'autre. On peut tout à fait faire les deux en même temps.
Mais là, c'est
le modèle social français. C'est-à-dire, quand vous dites moins de dépenses, vous le remettez en question.
Si le modèle social français se casse la gueule, c'est peut-être qu'il faut en changer.
Non, mais alors, si on a un problème, par exemple.
57% des dépenses publiques françaises sont des dépenses sociales. Donc, forcément, si on veut réduire les dépenses, ça commencera par la dépense.
Et les aides aux entreprises, les 270 milliards, je n'ai aucune contrepartie. Les 270 milliards sont donnés aux entreprises alors qu'elles ferment.
Je vous promets que vous aurez beaucoup de choses à dire, s'il vous plaît. Ordre sur ce plateau. On va parler d'un autre sujet. Alors. Plutôt embarrassant pour la mairie de Paris. Merci d'ailleurs, Franck Boisier, d'avoir été avec nous. Oui, pardon, vous êtes remplacé par Vincent Maladi qui est juste derrière vous. Et merci, on était ravis de vous avoir.
Sanction radicale, chère Émilie.
On était ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup.